Amis de Radio Silence, bonjour. Nous sommes le vendredi 4 octobre. Nous sommes à un mois des élections présidentielles américaines. Et vous écoutez Flash sur le monde qui reprend après une interruption depuis en fait les JO de Paris. Et voilà, nous sommes là un mois avant le grand événement qui aura lieu le 6 novembre. Et bon, moi personnellement, je vote Trump. C'est depuis 2016 hein, que je vote pour lui. Enfin, que je dis que je l'endorse, comme on dit en anglais. En 2016. Il y avait une femme, Hillary Clinton, oui. Cette fois-ci, on est en 2024. Il y a une autre dame contre M. Trump, contre toute attente, qui s'appelle Madame Kamala Harris, qui n'est rien d'autre que la vice-présidente des États-Unis, mais qui n'a pas le bagage quand même de Hillary Clinton, quand même. Sauf, bien sûr, elle est moins démoniaque, c'est clair. Encore que c'est une femme un peu plus secrète, donc on est pas trop grand chose d'elle. Tout ce qui est diffusé est un peu fait un peu comme une forme de risée. Elle rigole beaucoup, elle se pompe pas trop la tête. Et donc elle donne un sentiment de légèreté. Vrai ou faux, on ne peut pas savoir. De toute façon, elle arrive comme ça à la dernière minute comme un joker pour les démocrates déjà désespérés. Qu'on ne sait pas quoi penser. Bon, moi je veux rien penser du tout parce que déjà, c'est pas elle qui devait être la vice-présidente au départ. Si on respectait la méritocratie, c'est-à-dire si on avait respecté la logique des primaires de 2000, Biden a été candidat quand là, je sais plus en 2020. C'était 2020. Franchement, je connais plus de date. Ce serait pas ça. Donc elle arrive un peu là de manière téléphonique. Bon, bref. Donc, on va pas parler du passé, on va pas revenir dessus, puisque déjà Biden a déclaré forfait. Il a été victime d'un coup d'État par son propre clan, qui n'a pas cessé de mentir durant tout le mandat de Biden, comme quoi il était très bien, en bonne santé, bien conscient. En possession de tous ses moyens, et puis arriver au débat qu'ils ont tellement voulu en provoquant Trump. Peut-être croyait-il que Trump allait se défausser. Non, voilà, le débat a eu lieu et M. Biden, il a carrément, c'était un naufrage pour lui. Il avait du mal à articuler, ce monsieur. Il cherchait ses idées, il cherchait ses mots, il luttait contre une forme de difficulté à articuler clairement. Il arrivait à bafouer un peu. Vous avez le dja-dja qu'on a chanté au JO. Dja-dja, en langue bassa, parce que là, je vois que ça intéresse beaucoup l'Élysée, hein, le Cameroun en ce moment, Macron a commandé une. Je sais pas, on appelle ça, comment appeler ça, une rétrospective, comment appeler ça, une étude, comment appeler ça, un roman, voilà, sur l'indépendance, la conquête de l'indépendance au Cameroun, et notamment sur la résistance autour de celui qu'on considère comme le père de la nation, Monsieur Oumiobé. Alors, donc, Oumiobé, c'est la langue bassa. Et c'est vrai que ça semble intéresser le président parce que Dja-Dja, vous savez, Dja-Dja en bassa, on dit en port Dja-Dja, c'est-à-dire il a parlé en port, c'est-à-dire il a parlé en port Dja-Dja, c'est-à-dire qu'il ne sait plus ce qu'il peut dire, c'est ça Dja-Dja, c'est-à-dire que vous avez eu comme une forme, comme le ciel qui vous tombe sur la tête, et puis après on dit, ben, il parle Dja-Dja, vous ne savez plus quoi dire, c'est-à-dire ça vous dépasse, vous parlez, vous parlez, vous parlez. Donc, c'était un peu ça avec Joe Biden. Lui, c'était Dja-Dja au sens babillage, quoi, carrément. Bon, ce n'est pas le sujet Biden, ce n'est même plus le sujet nulle part. On ne sait même plus s'il est président des États-Unis. Le sujet, c'est comment cette élection a tourné. Donc, depuis que Kamala a remplacé Joe Biden sur le pied levé, l'émission tourne à ce que les démocrates savent faire d'habitude. L'émission, l'élection, ça tourne au faux, au faux ou plutôt à la fraude. On essaie de tricher. Alors, les démocrates, vous savez, ils sont les rois de la triche. Et cette fois-ci, il y a eu pas mal de stratégies. On va faire un peu une forme de flashback un peu des événements depuis l'élection de Trump déjà. En 2016, ça commence là. Hillary Clinton n'a pas accepté sa défaite. Elle en avait gros le cœur. Enfin, elle n'a pas accepté dans son cœur. Hein. Elle en avait gros, voilà, sous la patate. Et ils ont inventé cette histoire. Oui, mais Trump, il a gagné parce que la Russie l'aurait aidé secrètement. Il aurait mis à sa disposition via les hackers, les informations du Parti démocrate et tout ce qui se passait dans la campagne, la sauce Hillary. Et voilà, c'est parti de là, roche à roche à roche, comme M. Trump disait. Donc, on commençait déjà à l'accuser d'être de mèche avec l'étranger. Grosse accusation, hein, quand vous êtes un président, quand même, être de mèche avec l'étranger et quel pays à l'étranger? Celui qu'on considère comme le pays numéro, l'ennemi numéro un, ennemi public numéro un. Donc déjà, Trump, il a traîné ça durant tout son mandat, qui s'est compliqué par la suite avec le Covid, qui était aussi une peau de banane sous le pied de Monsieur Trump. On a vu ce que c'est devenu, et d'ailleurs, c'est très bien ce Covid, ça lui vaut le ralliement de Kennedy, qui l'endorse, voilà, qui l'a choisi. Bon, on a ce problème qui a traîné longtemps, et entre-temps, on a eu le harcèlement judiciaire. Le harcèlement judiciaire avait pour but de discréditer le président Trump sur un plan. Alors, on l'a déjà discrédité hein, sur comment dire, son honneur, sa crédibilité même de commander en chief, qui serait un traître potentiel. Et là, on voulait aussi le discréditer sur le plan des mœurs. Et ça, c'est plus grave parce que on a mis en scène, vous savez, le procès à New York où il aurait des relations avec extra-conjugales. Mais bon, ce qu'ils n'ont pas évalué, c'est que la question des relations extra-conjugales aujourd'hui, c'est un peu dépassé parce qu'on a depuis franchi le Rubicon avec le mouvement LGBT qui dépasse l'entendement. Donc, et puis tout ce qu'on dit sur les trafics d'enfants, vous voyez, que du sordide, Epstein, et on voit la suite aujourd'hui avec la liste du gourou de la musique, on parle de P. Diddy, qui était un peu le patron, le mastermind du rap américain, et caché derrière un agenda qu'on n'avait pas vu depuis les années 90, et qui est en fait un agenda gay. Qui passait comme ça par les gardes du ghetto, vous voyez un peu, c'était du cousu. Donc, harcèlement judiciaire pour M. Trump. Après le harcèlement judiciaire, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de on a appelé beaucoup d'affaires. C'était le parmi ces affaires d'ailleurs, ce qui rejoint la question de Rocha, 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 c'est celle qui a donné lieu au raid de son manoir ou de son château, moi j'appelle, soi-disant il était parti avec des dossiers classés top secret qui pourraient mettre en jeu à cause, à risque la sécurité de l'État américain, moyennant quoi Trump devenait comme ça encore un agent potentiellement dangereux pour le pays et comme les démocrates disent pour la République parce qu'il pouvait vendre ses documents, imaginez donc. À l'Iran, et puis ça tombe bien l'Iran, parce qu'on a vu ce que l'Iran a fait aujourd'hui. Trump n'est pas là, enfin aujourd'hui. Il y a 2, 3 jours, avec le bombardement, je sais pas si c'est un vrai bombardement ou c'est juste comme ça un galop d'essai, ou c'est une provocation, mais quand même, c'était fort de café. Et donc l'Iran, avec la Russie, ennemi des États-Unis. Donc Trump encore, on essaye de le faire passer pour un espion potentiel. Vous voyez, ça a été comme ça. Ce procès, cet harcèlement judiciaire avait pour but justement de faire passer Trump pour ça, c'est-à-dire un agent double, très grave, agent d'espionnage, très grave, donc une menace pour le pays. Il faut que dire ça, ça c'est dans la bouche de tous les démocrates. Et pour le prouver, il faut bien qu'il y ait tous ces procès qui ont eu lieu. C'est terrible. La politique est parfois, je sais pas, c'est au-delà du terrorisme en fait. Donc, entre-temps, vous savez, Biden, avec tout ce qui a eu comme corruption en Ukraine, on n'en a pas parlé, son fils et son laptop, alors, on n'en parle plus, c'est la drogue, les armes achetées sans permission, tout ça, c'est passé sous silence par les médias qui n'en parlent plus. Et voilà, c'est Trump qui est le grand méchant loup. Il faut se débarrasser de lui, malheureusement. Franchement, je ne sais pas comment M. Trump a fait pour résister, mais c'est héroïque, hein, sa résistance, parce que depuis qu'il a été débarqué frauduleusement en 2020, il a tenu, comment je vais dire, le premier rôle sur la scène politique, pratiquement, effaçant même Joe Biden, parce qu'il était au contact du public et faisait ses meetings. C'est-à-dire que maintenant, bon, c'est un peu. Il fait quoi, fin de partie, il s'amuse un peu, il refait ce qu'il a fait pendant 4 ans, quand même. Donc son discours est rodé, on sait ce qu'il va faire. Et là aussi, il a pris tellement d'avance sur les démocrates, qui n'avait pas prévu ce coup-là, que la réponse Kamala, moi je crains que ça va être très juste. Ça va être très juste parce que Trump a pris l'avance, comme ça s'est passé en 2016 lors des primaires républicaines. Trump a pris l'avance tout de suite, la compétition s'est arrêtée. D'ailleurs, on a eu des éléments qui prouvent déjà quand même que les démocrates ont commencé à faire profil bas. C'est Mark Zuckerberg, le CEO, je sais pas il est quoi, de Facebook et de Meta, qui a quand même présenté ses excuses publiquement en disant qu'il regrette, il n'aurait jamais dû suivre le FBI qui lui avait demandé en 2020 de ne passer aucune information sur l'Ukraine ou sur le Covid-19 qui pourrait aller contre la doxa étatique, moyennant quoi tout ça en raison de sécurité, raison d'État, la sécurité d'État, moyennant quoi l'affaire Joe Biden n'a pas pu être publiée et discutée en 2020. Donc ça l'a protégé parce que si cette histoire de corruption était sortie à ce moment-là, ben Joe Biden ne pouvait pas passer. Donc il y a eu une interférence réelle sur cette élection, et Mark Zuckerberg a reconnu cela et a demandé pardon. Mais ça, c'est l'Amérique, vous savez, on fait des choses consciemment, et puis après, on vient dire, oh, je demande pardon, je m'excuse, c'est à la fois trop tard, et bon, c'est leur culture. On finit par accepter, parce que Dieu dit que, et ces gens qui disent Dieu dit qu'il faut accepter les excuses sont précisément des antireligieux. Antireligieux. Et qu'est-ce que le FBI dit? Oui, bon, le FBI, déjà avant que Max Zuckerberg ne s'excuse, il y a eu le rapport Durham qui a bien mis en évidence l'absence de professionnalisme du FBI qui a participé à la désinformation, à la fabrication du faux et à la dissimulation de l'information. Le FBI avait juste dit oui, mais on s'excuse, oui, mais on a pris bonne note, pardon, il s'était même pas excusé, hein. On refera plus ça, à l'avenir, nous serons plus professionnels. Et on n'a limogé personne, parce que c'est Biden qui était déjà là et le FBI avait travaillé pour que Biden soit là pour le couvrir. Donc on est en totale irresponsabilité. Et c'est ce gouvernement-là qui vient faire des procès à M. Trump. Coup de, je veux dire, je ne vais pas dire coup de chance, mais Il y a eu un contre-pied terrible, c'est que la Cour suprême a décrété l'immunité présidentielle pour Trump. Aïe, alors là, le harcèlement judiciaire s'est écroulé de lui-même. Château de cartes est tombé. Et c'était pas seulement pour Trump, cette immunité, c'est aussi parce que les autres présidents avant Trump ont fait des choses horribles. Trump, lui, il n'a pas vraiment fait des choses horribles, mais les autres, oui. Alors, si on laissait condamner Trump pour des histoires où apparemment il aurait voulu intervenir auprès des gouverneurs d'État pour qu'on change notamment des 6 États clés, pour qu'on change les résultats, et qu'apparemment, ça c'est le conseiller Smith, Jack Smith, qui ramène la sauce aujourd'hui. C'était accompagné, tous ces États accompagnés de menaces de mort. Vous voyez, il faut faire gonfler l'affaire parce que là, ce genre de choses. Qui, après qu'on ait déclaré l'immunité et qu'on revient encore dessus, sur ce procès du 6 janvier et des élections 2020 que les démocrates disent régulières, quand on revient dessus, évidemment, on doit dire qu'on a des faits nouveaux, des éléments nouveaux qui sont très graves parce qu'il y aurait eu des suspicions de criminalité. Bon, ils n'arrêtent pas, ils baissent pas les bras, mais c'est un signe aussi qu'ils sont en train de paniquer, de perdre. Parce qu'à la suite du débat Kamala Trump, hein, bon, qu'est-ce qui pouvait se passer? Bon, presque rien. Surtout que un Trump trop viril de nature devant Kamala qui a l'air fragile. Alors vraiment, c'était un piège parfait pour Trump en fait, parce que tout ce qu'il aurait pu dire, ce serait retourné contre lui. Et notamment, Kamala dit qu'elle est black, bah, il fallait pas parler de ça. Parce que là, on va peut-être terminer là-dessus, c'est la question identitaire qui revient sur le devant de la scène. Madame Kamala Harris est-elle black? Bien sûr que non. Oui, si on dit que c'est le père, société patriarcale, son père était jamaïcain, un truc comme ça, noir. Mélange, quand elle a grandi, dans un milieu d'ailleurs favorisé, hein, pas défavorisé comme on dit, elle n'était pas vraiment en contact avec les Blacks, ni avec la question Black. C'est après maintenant qu'elle récupère ça. Bon, c'est pas très grave, mais ça peut aussi s'apparenter à une forme de racolage politique, parce que là, c'est une façon de faire un coup de pied, comme ça, au vote noir. Et c'est ça qui déplaît en fait. Sinon, le débat s'est passé, rien n'a vraiment changé, parce que ce qui fait les élections, pour que ça change, pas que ça change, ce qui définit au final une élection, c'est les électeurs indécis, qui jusqu'à la fin font parfois un choix brutal, sur le coup de tête. Et ce qui fait aussi l'élection, c'est toujours peut-être dans la zone d'indécision, mais c'est peut-être dans la zone aussi de l'abstention. Alors il y a un élément, quelqu'un disait, oui, mais Trump, il a écrit, je lis plus les articles parce que c'est tellement de parti pris que c'est tellement grossier, mais une information importante est arrivée du côté de Todd Starnes, c'est quelqu'un qui a une radio et qui a sorti donc cette information via Newsmax. Un magazine sur le vote des chrétiens. Ah, ça c'est important. Parce que contrairement à ceux qui disaient que oui, mais Trump, il n'a plus de vivier de voix, c'est fini, tout son électorat est plein là, non. Il y a une variante qui est une donnée importante, c'est que les électeurs, les chrétiens, d'après une étude qui a été faite là, sortie le 23 septembre, par The Faith Vote, c'est un site, une organisation qui suit le vote des chrétiens et qui dit a fait une étude, et l'étude fait état du fait que 25 millions de chrétiens enregistrés sur les listes électorales n'ont pas voté en 2020 aux élections présidentielles. C'est énorme. 15 millions de chrétiens ne sont même pas inscrits sur les listes électorales. Ah, je croyais que le vote était obligatoire. Non. Enfin, l'inscription quand même. Et puis, 65 millions de chrétiens n'ont pas voté aux élections locales. C'est bouleversant. Suite à cela, ils ont organisé une conférence. L'article est apparu le 23 septembre, donc le lundi qui suivait. Il y a une conférence qui a été organisée par des faith votes pour justement. Et c'est l'église baptiste, hein, l'église baptiste, qui a pris en charge cela pour essayer de discuter la question avec les chrétiens, de les rendre plus conscients des enjeux, de les inviter vraiment à voter. Et ça, c'est bien pour Trump parce que c'est vraiment un vivier électoral conséquent, c'est-à-dire que ça ferait 40 millions d'électeurs potentiels en plus pour lui qui font partie de la catégorie de ce qu'on appelle les abstentionnistes parce qu'ils sont contre le système. Alors, étant contre le système, ils peuvent faire ne même pas s'en mêler et faire comme si tout cela n'existait pas. À la clé, ou plutôt à la clé, au centre de ce désintérêt, se trouve la question de l'avortement et celle des LGBT. L'avortement, bien sûr, on peut le voir comme un verre à demi plein ou à moitié rempli, à moitié vide, pardon. Côté démocrate, oui, c'est le droit des femmes à disposer de leur corps, ça fait partie de la liberté, des libertés, pardon. Et côté républicain, oui, ben le droit à la vie, c'est pas une question qui relève de l'être humain, c'est une question qui relève d'un être supérieur, celui qui a conçu l'humanité. Et c'est un débat profond, et surtout ça relève des principes, des valeurs de l'Église qui énoncent qu'on ne tuera point, par exemple. Donc un avortement, c'est un crime dans cette logique, et d'ailleurs oui, puisqu'on élimine un être, et de ce point de vue, les chrétiens ne sont pas d'accord avec ça. La question de l'avortement, c'est un point de crispation aux États-Unis qui est assez... Je sais pas, c'est indépassable, ils sont fixés là-dessus. C'est un peu comme celle de l'immigration, mais l'immigration, ça c'est partout, même en France, quand on n'a pas de politique, on arrive à l'immigration. Sauf que l'immigration aux États-Unis ces derniers temps, avec ce qui s'est passé à la frontière au Texas, c'était vraiment un trafic humain, clairement. Et Madame Kamala était là, chargée, la tsarine, chargée de gérer cette question, n'a pratiquement même pas mis les pieds à la frontière pour même regarder ce qui se passe. Donc on l'appelle la grande muette et tout d'un coup, qui retrouve la parole et avec quelque chose de gênant, elle aurait un écouteur qui serait connecté à ses boucles d'oreilles. C'est encore un élément de fraude. Les démocrates sont incorrigibles. Donc voilà, elle n'était pas prête aussi, Kamala. Donc la pauvre, elle fait ce qu'elle veut. Et pour dire quand même sur la question black en rapport avec Madame Kamala Harris, il y a une blague qui a dit, mais les Noirs demandent par exemple beaucoup plus de justice en matière d'éducation, de sécurité sociale. Probablement aussi d'équité, d'orientation dans les trajectoires de la vie, ce qu'on appelle l'égalité des chances. Mais curieusement, sur ces points-là, on répond comme ça, avec des demi-mesurettes. Bon. Et là où on répond à 100%, c'est sur le droit à l'avortement. Là-bas, c'est tout gratuit. Elles peuvent se faire avorter autant qu'elles veulent. En fait, quelqu'un a dit, mais ça, c'était vraiment cynique parce que le plan, l'agenda aussi, c'était dans la poursuite de l'agenda gay dont on a parlé tout à l'heure avec l'affaire Pilili. C'est la stérilisation, les formes d'eugénisme. Très sophistiqué pour les Noirs. Donc, si Madame Kamala Harris était noire, peut-être qu'elle serait au courant de la question par rapport à l'avortement. Elle aurait des choses à dire là-dessus et par rapport à l'égalité de traitement des minorités, enfin des minorités, des citoyens américains. Donc voilà, ça c'est le tableau, hein. Et pour donc, et ça c'est pas étonnant, c'est pas étonnant. C'est pas si c'est un plan de Dieu ou c'est une coïncidence divine. C'est l'affaire P. Diddy. L'affaire P. Diddy arrive, c'est un réseau qui concerne les politiciens, les artistes de Hollywood, de la musique, du monde musical, de tout cet univers, et aussi les sportifs. Donc il y a tout un univers culturel. La culture, elle est happée aux États-Unis par la gauche, donc les démocrates. C'est pour ça que les artistes ils soutiennent tous, ils donnent un argent fou aux candidats démocrates. Et tout en haut, il y a toujours l'argent. Ce sont ceux qui, les Sony et tout, les grands groupes là, qui font qui gèrent tout ça, l'univers de la musique, la world music. Et on apprend qu'il y a 30 CEO qui ont, dès qu'on a arrêté P. Diddy, ils ont démissionné. Ainsi que des 30 CEO plus exec, les exécutifs, c'est pas trop. Vous connaissez l'anglais plus que moi. Bon, ça veut déjà dire qu'il y a un réseau là, une forme. Parce que P. Diddy à lui tout seul n'a pas la capacité de gérer tout ça, même comme on dit qu'il est associé au mari de Beyoncé et tout. Bon, enfin, c'est à eux deux, même à eux deux, ils ne peuvent pas avoir cette capacité. C'est donc. Il y a du en haut là, les gros poissons qui gèrent comme d'habitude l'affaire, derrière la scène, comme on dit. Et c'est pas mauvais pour les républicains parce que ça, du coup, si P. Diddy est en prison, s'il parle, ça sera très 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 mauvais pour les démocrates. Très 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 mauvais parce que les noms de Hillary Clinton, les noms de Obama et cette liste de P. Diddy va d'abord recoupe celle de Epstein qui est mort en prison. Est-ce qu'on va zigouiller P. Diddy? C'est pas pour pas qu'il parle ou alors comme il a commencé à faire comme les Américains aiment bien, il a commencé à présenter des excuses. Je m'excuse, ce que j'ai fait, c'est horrible. D'abord il dit qu'il il sait même pas quoi dire, il sait même pas s'il s'excuse parce que ce qu'il a fait impardonnable. Alors qu'est-ce qu'on va faire de lui? C'est pas ça, faire une peine de mort. Ce serait fort de café. Bon, bref, on rentre là dans un domaine et c'est pas étonnant parce que dès qu'on arrête P. Diddy, le lendemain, c'est là où ce conseiller Jack Smith revient avec des faits nouveaux sur la criminalité potentielle des événements du 6 janvier 2020, lorsque Joe Biden prenait le pouvoir et puis bon, de toute façon, c'est que ce et que cela remettait était de nature à remettre en cause, parce qu'il y a des faits criminels sous-jacents, à remettre en cause l'immunité de la Cour suprême. Bon, la seule chose qu'il faut quand même rappeler aux juges, hein, parfois, parce que là on est en période électorale, c'est qu'ils ne sont pas les seuls juges et que le peuple s'y juge. En l'occurrence, ça c'est le temps du peuple, c'est plus le temps des juges, hein, c'est dépassé. Et le peuple, l'une des manières déjà, je vais dire le verdict a déjà été donné par l'élimination précoce de Mike Pence, le fossoyeur de tout ça, qui était chargé de ne pas valider l'élection, parce qu'il y avait beaucoup de fraudes et peut-être de faire d'abord passer la chose au niveau de la Cour suprême pour que la Cour suprême décide sur la validité des arguments avancés, sur la fraude ou pas. Mais il a trop vite démissionné, bon, il y en a quoi s'il avait bien fait? Ben, il y a eu les primaires, hein, au Parti républicain. Ben non, il a mal fait, on l'a éliminé tout de suite, très rapidement. Ça, c'est le verdict populaire. Alors, curiosité, Nikki Haley, qui a dit tout le mal qu'elle pensait de Trump, gouverneur de la Californie du Sud. Et cette femme que faite par Trump était candidate contre Trump. Elle a échoué lamentablement. Elle a dit tout le mal de lui. Et puis là, finalement, elle se rallie à lui. Bon, c'est la politique, allez comprendre. Et surtout, ce qui est aussi les bizarreries de l'élection, Musk, Elon Musk, qu'on ne présente plus, s'est rallié aussi à Trump. Alors plus Kennedy, franchement, il faut un miracle pour que Trump ne gagne pas. Mais il gagnera. Il gagnera. Donc moi, je prends tous les paris ici, il gagnera. Amis de Radio Silence, vous avez écouté Flash sur le monde par Élise Mbok. Je vous dis à bientôt.